France Inter. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée également sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes aujourd'hui à la veille du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Et après trois ans, la semaine qui s'ouvre s'annonce absolument cruciale. Le président Macron part ce dimanche pour Washington. Sa mission, sauver l'Ukraine, sauver la paix et la sécurité de toute l'Union européenne. C'est donc la survie de l'Europe qui est en jeu cette semaine. Qu'en pense le Rassemblement national, qui entretient depuis longtemps des relations ambiguës avec Vladimir Poutine et qui est aujourd'hui, semble-t-il, admiratif du nationalisme et de la méthode trumpienne. Bref, quel camp a choisi le parti de Marine Le Pen ? On en parle avec notre invité, le député Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Il est ce dimanche dans Questions politiques en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame Bécard.
À mes côtés, pour vous interviewer, l'équipe de Questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions et Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour à tous les deux.
C'est toujours compliqué.
Non, j'étais en train de me
râler. Dites juste bonjour et puis voilà, ça le fait.
L'emporte toujours. Bonjour.
Allez, avant les images de la semaine, exceptionnellement, il y a eu cette attaque hier au couteau. Cela s'est passé à Mulhouse. Bilan, un mort et trois policiers blessés. Emmanuel Macron a rapidement parlé d'un acte de terrorisme. L'homme qui a porté les coups est fiché pour radicalisation. La France n'a jamais pu le renvoyer en Algérie puisque les autorités de ce pays ont toujours refusé de le récupérer. Jean-Philippe Tanguy, quelle est la solution dans une telle situation? On ne pouvait pas expulser cet individu. Dans ces cas-là, comment on fait? Bruno Retailleau a proposé de la rétention associée à de la sûreté. Est-ce que c'est une bonne idée?
Écoutez, c'est la moindre des choses. Il n'est pas normal que cette personne, comme d'autres d'ailleurs précédemment, dans d'autres tragédies qu'a connues notre pays, puisse sortir de son centre de rétention administrative uniquement parce qu'un délai a été épuisé, en particulier dans des condamnations pour apologie du terrorisme, puisque c'était le cas de ce triste individu. Et aussi, visiblement, ce que c'est un paravent, ce qui est une réalité, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, de troubles psychiatriques lourds, qui fait schizophrénie, visiblement, ce qui fait qu'il n'avait pas non plus à être dehors de notre point de vue. Je voudrais quand même saluer parce que les policiers ont exposé, les municipaux ont exposé leur vie grâce à leur, comment dire, à leur professionnalisme. Ils ont arrêté ce terroriste, aussi d'autres personnels de la ville de Mulhouse. Et donc, il faut saluer. Peut-être, malheureusement, on a pu éviter d'autres drames et penser évidemment à la famille du monsieur qui
a perdu la vie. Mais là, je demandais une solution. Hein. La solution, c'est quoi, en fait?
Mais écoutez, c'est quand même important, madame, de saluer aussi les gens qui, dans des moments pareils, prennent des décisions qui exposent leur vie. La décision, c'est au moins de faire en sorte que cette personne ne sorte pas de sa rétention administrative, soit sur surveillance stricte, et évidemment, dans notre rapport de force avec l'Algérie, il est grand temps de prendre toutes les mesures que propose Marine Le Pen depuis des années, sans gradation. Maintenant, on a fait assez de gradation, donc on suspend les visas, on suspend toutes les aides, on suspend tous les flux financiers de la diaspora, et le fait que la sixième puissance du monde, pardon, la France, ne puisse pas faire céder l'Algérie, reste pour moi, comment dire, un abîme d'incompréhension.
Le ton s'est durci récemment vis-à-vis de l'Algérie. Bruno Retailleau a dit hier qu'il considérait qu'il fallait passer à la manière forte. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus précisément sans risquer d'attirer les foudres des Algériens, et notamment ça continue à s'assurer leur collaboration en termes de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, parce qu'ils nous donnent moins que le Maroc, mais beaucoup d'informations.
Vous avez raison, nous leur donnons aussi. Hein, il ne faut pas toujours aussi croire la communication unilatérale du régime algérien, qui fait toujours croire qu'elle rend beaucoup de services à la France et que nous ne lui en rendons pas. Moi, paradoxalement, vous voyez, le fait que le ton dans les médias soit dur, ça ne m'intéresse pas, c'est sans doute pas la bonne méthode. Au gouvernement, ce qui compte, c'est les actes. Donc le fait de multiplier les phrases provocatrices ou faussement dures pour qu'après la France...
Donc là, parlez de Bruno Retailleau.
Ou d'autres, avant lui, mais pour qu'en fait, derrière, les actes ne suivent jamais, le régime algérien répond par ce qu'il sait faire, c'est-à-dire utiliser la France comme le bouc émissaire de ses propres faillites et continuer la politique comme si de rien n'était depuis bien trop longtemps.
Mais est-ce que c'est pas plutôt qu'on se heurte sur un mur de la réalité? Parce que la méthode forte, il y a eu quand même si on le dit pas, il y a eu quand même un durcissement très net des relations, et on voit bien que c'est très compliqué.
Je n'ai pas dit que c'était simple.
Et vous n'avez pas donné de solution d'ailleurs.
Notamment les flux financiers. Les flux financiers ne sont jamais concernés. Les visas ont été suspendus, mais sur une durée très courte. Nous n'avons pas tenu dans le temps. Ce qui est sûr, moi je pense que la classe politique française, à part le Rassemblement National, vit dans une forme de culpabilité par rapport au régime algérien qui l'empêche de prendre les mesures qui s'imposent depuis bien trop longtemps. Moi, j'ai aucune culpabilité envers un régime, bon, qui est quand même un régime autoritaire, qui meurtrit sa propre jeunesse et qui n'a rien à offrir.
Mais plus largement, quand on voit les pays qui refusent de reprendre les personnes sous OQTF, il n'y a pas que l'Algérie. Oui. Il y a un certain nombre de pays. Soit les gens n'ont pas de papier d'identité, et soit tout simplement les pays qui seraient les pays d'accueil dans lesquels on peut les envoyer, ne veulent pas reprendre des délinquants. Qu'est-ce que vous faites? On boycotte le monde entier, on suspend les visas partout, on suspend l'aide au développement partout. Est-ce qu'il y a, comment faire? Parce que c'est quelque chose qui, à l'échelon français, est quand même très difficile.
Mais en fait, je partage pas cette analyse que c'est difficile.
Je vous pose une question.
Non, mais ça peut être une analyse, c'est pas grave. Mais moi, je partage pas.
Mais pourquoi ne l'aurait-il pas fait avant?
Parce qu'ils ne veulent pas. Nous fréquentons les dirigeants politiques français, les collègues députés deviennent ministres, inversement. Il n'y a aucune volonté dans les échanges qu'on peut avoir avec eux d'établir un rapport de force.
Vous voulez dire que depuis des décennies, le ministre de l'Intérieur signe des OQTF ou par l'intermédiaire du préfet des obligations de quitter le territoire français et se satisfait de les voir pas remplis, pas réglés.
Je le crains, oui. En tout cas, que ce critère est inférieur au fait d'entretenir ce mythe de la coopération. Ce fait que c'est par uniquement la douceur et il faut bien dire le fait que la France se fasse pigeonner en fait. On trouvera une solution. D'ailleurs, la France a le pire taux, ou parmi les pires taux d'exécution des OQTF en Europe.
Parce qu'elle les délivre plus largement que les autres pays.
Oui, c'est en partie vrai, mais ce n'est pas la seule raison, parce que si vous retirez par exemple les OQTF exercés en Outre-mer, les OQTF exercés dans l'Hexagone sont vraiment à un taux très bas. D'autres pays y arrivent. C'est une attitude générale. On le sent bien dans la façon dont notre pays est dirigé. Il n'y a pas de volonté de faire respecter d'une manière générale la France. Je ne connais pas dans le débat public Madame Bécard, par exemple, d'autres exemples d'un président qui, pendant une campagne présidentielle, insulte son propre pays, la France, pour faire plaisir à un régime étranger, en l'occurrence l'Algérie.
Ça a changé depuis.
Oui, ça a changé, mais il l'a fait. Voilà, je n'ai pas d'autres exemples. Donc quand vous commencez un débat ainsi, il n'y a pas de nécessité de se faire respecter.
Et pas un petit satisfecit pour Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, c'est comme les autres?
Non, mais je crains que ce soit comme les autres. Je ne m'en félicite pas, puisque malheureusement...
Bruno Retailleau, tout de même, il a un discours, vous le disiez tout à l'heure, assez dur. Il peut même représenter un sérieux concurrent pour le Rassemblement National, sans porter l'étiquette RN.
Je ne crois pas, parce qu'on nous avait fait le même coup avec Darmanin, c'est-à-dire présenter une personne venant de la droite comme changeant tout et le contraire de tout.
Il
n'y
a pas de différence entre Darmanin et Retailleau?
Non, ils sont très proches dans la parole, dans l'exercice de la parole. Et en fait, ce sont des cautions verbales pour une politique sur le fond macroniste qui ne change pas. Et d'ailleurs, eux-mêmes le reconnaissent. Parce qu'ils reconnaissent et critiquent leur propre impuissance en demandant des changements que seule Marine Le Pen serait capable de faire.
Allez, on passe aux images de la semaine. On commence avec la vôtre, Jean-Philippe Tanguy, toujours l'invité en premier. Vous avez fait un choix un peu surprenant.
Oui,
racontez-nous, qu'est-ce qu'on voit.
Oui, c'est un peu décalé avec l'actualité tragique de notre pays, mais c'est une bonne nouvelle pour la France.
Les ingénieurs
On voit le CEA, le Centre d'énergie atomique, qui a réussi à Cadarache une opération, une grande première mondiale, un record mondial de production de plasma pour la fusion atomique. Alors que c'est la fusion atomique, ce n'est pas l'énergie nucléaire classique. C'est reproduire ce qui se passe au sein du Soleil. Hein. C'est une énergie nucléaire propre, sans déchets, et potentiellement infinie à échelle humaine. C'est une solution dont la France a une grande avance. Alors la Chine avait battu un record il y a quelques semaines. Nous avons battu le record chinois, et j'en suis très fier. C'est la preuve que la France, avec son modèle de recherche, son modèle nucléaire, est encore capable de grandes performances. Et c'est une source d'espoir, notamment pour la transition écologique, évidemment, puisque c'est le contraire de la décroissance. La fusion nucléaire, c'est la capacité à produire plus d'énergie, plus de développement et
plus d'électricité décarbonée.
Exactement, plus d'électricité décarbonée, plus de chaleur. Et donc une promesse aussi de développement, parce que n'oublions pas que beaucoup de pays encore aujourd'hui pauvres ont besoin de se développer. Et donc il faut qu'on trouve collectivement de nouvelles formes d'énergie qui sont propres, évidemment. Et c'est ça la vraie écologie du point de vue du Rassemblement National.
Allez, autre image de la semaine, celle d'un rapport qui était très attendu avec vous, Françoise.
Oui, alors moi j'ai retenu la mission flash sur les retraites qu'avait commandé François Bayrou à la Cour des comptes en janvier. Les conclusions tombent et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien qu'il y aura encore un déficit du régime des retraites, même si on se limite au régime général du privé. Eh bien il y aura un déficit de 15 milliards dans 10 ans.
Bayrou avait dit 55 quand même.
Là, je ne vous parle pas d'aujourd'hui, je vous parle de dans 10 ans.
D'accord.
Si vous prenez uniquement le régime général, c'est 15 milliards dans 10 ans et 31 milliards dans 20 ans. Donc ça veut dire qu'au fond, on a devant nous de nouveaux trous à combler. Et la question qui se pose, à mon avis, à travers ce rapport, c'est est-ce que les partenaires sociaux vont être plus positifs que les partis politiques ? Est-ce qu'ils sont capables de prendre en charge le système et d'essayer, au fond, de dédramatiser la situation ? Qu'est-ce qui se passe ? On est en évolution démographique défavorable, et donc on va avoir de façon récurrente un problème de trous à gérer. Donc est-ce qu'on peut faire confiance aux partenaires sociaux, comme ils le font pour les régimes complémentaires, où finalement le régime est bien équilibré, ou est-ce qu'on retourne dans l'idée que, au fond, il faut revenir sur une réforme qui est mal passée, il y a un déficit démocratique, donc il faut revenir sur la réforme Macron et inventer autre chose. J'en sais rien, il y a 3 mois pour essayer de trouver, mais si on arrivait à se projeter, à dépasser les crispations qui, à chaque réforme des retraites, fichent le pays à feu et à sang pour finalement arriver à une solution qui n'est pas très éloignée de celle de nos partenaires européens, ce serait une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive.
Jean-Philippe Tanguy, est-ce que la situation financière telle qu'elle a été présentée effectivement par la Cour des comptes cette semaine, est-ce qu'elle peut permettre de revenir sur la mesure d'âge, parce que le Rassemblement national continue à demander, il me semble, un départ à la retraite à 62 ans.
Oui, tout à fait, sur un chiffrage qui était celui de notre programme, à savoir 15 milliards d'euros, pour revenir à 62 ans et pas les 40, 50 milliards qu'on avait attendu nos adversaires lors de la campagne législative. Donc en fait, ce rapport est intéressant parce qu'il objective un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les échelles de temps que vous donniez, c'est qu'on se rend bien compte que les enjeux, ils sont pour 2035, ils sont pour 2045. Et donc derrière ça, c'est le développement économique. Et moi, depuis que je suis enfant, adolescent, je ne cesse d'entendre une réforme des retraites qui n'est fondée que sur une logique de pénurie et de suppression des acquis sociaux. Alors que si nous avions la croissance, la richesse qui arrive à produire la Suisse, les États-Unis, d'autres pays occidentaux, nous pourrions financer notre modèle social. Donc il faut sortir de cette logique malthusienne de faillite économique et à libérer la croissance par l'innovation. J'en ai donné un exemple.
Mais pourquoi est-ce que vous considérez qu'au fond, ce qui se passe dans les autres pays où la retraite est à 65, 66 ou 67 ans, c'est une remise en cause des acquis sociaux ? Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes à inventer où vous faites du cumul emploi-retraite, où vous faites... Enfin, pourquoi est-ce que vous vous mobilisez, y compris comme la gauche, hein, d'ailleurs, sur l'idée qu'il faudrait revenir à 60 ou 62 ans, comme si c'était un acquis à ne pas transformer ?
Là, on a le Danemark, je précise, qui, dans quelques semaines, va passer de 67 à 70 ans.
Tout à fait. Je ne suis pas sûr que ce soit une perspective radieuse pour les Danois. La liberté, tout ce qui est fondé sur la liberté, on est pour. Marine Le Pen a proposé le cumul emploi-retraite, le faciliter, notamment pour les soignants, puisqu'il y a des soignants qui veulent continuer à travailler et on a besoin d'eux, vu le déséquilibre générationnel de notre système de soins. Mais oui, c'est un acquis social, partir à la retraite tôt et de pouvoir profiter d'un peu de
mais
repos de
certains,
sa famille
oui,
et de
mais
sa santé.
Pour
mais
tous,
beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens. Moi, j'ai visité il y a encore 3 semaines une entreprise dans ma circonscription, une très belle entreprise qui fait comme de la métallurgie, mais j'entends encore le marteau-pilon. J'entends encore le marteau-pilon. Voilà, et nous, on est des privilégiés. On a la chance de... Mais nous tous, c'est pas grave. J'accuse personne, je m'inclus dedans. Mais partir, travailler des années avec ces bruits, avec ces mouvements, avec des produits parfois qui peuvent être dangereux, malgré toutes les consignes de sécurité, c'est pas notre vie. Et oui, c'est un acquis social de pouvoir partir à 62 ans. Pareil, quand on est soignante, aide-soignante, vous êtes une aide-soignante, vous mesurez 1m65 pour 50 kilos, vous soulevez des personnes âgées qui sont dépendantes, vous faites bien votre travail. Bah oui, c'est difficile. C'est difficile et à 62 ans, vous n'êtes pas aussi en forme qu'une personne qui a eu la chance ou l'opportunité de faire une autre carrière. Donc oui, partir à 62 ans, pour beaucoup de Françaises et de Français, c'est pour ça que ça occupe une telle place dans le débat politique français, c'est un droit social, c'est un droit humain.
Mais là, il y a un texte, à l'issue de ce conclave de 3 mois pour les représentants syndicaux et patronaux. Il y a un texte qui sera soumis à l'Assemblée. Vous allez le discuter. Si jamais il n'y a pas de retour sur la mesure d'âge, un retour à un départ à 62 ans, est-ce que vous voterez la motion de censure dont parle déjà le Parti Socialiste sur ce texte en particulier ?
Mais nous étudierons avec le groupe et Marine Le Pen prendra une décision. Quelles sont les perspectives ? Qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres ? Bon, ce qui est sûr,
c'est
que
vous arc-boutez sur la mesure d'âge ou
pas ? Ah oui, la mesure d'âge, elle est au centre.
C'est 62, c'est sûr, c'est pas 63.
Elle est au centre de la réforme que propose Marine Le Pen. Nous n'avons pas varié. Contrairement aux accusations lors de la dernière législative. Non, non, c'est juste que d'autres réformes. Et il est vrai, plus complexe, notamment parce qu'elle incite notamment les jeunes à travailler plus tôt, notamment un certain nombre de métiers dont nous avons besoin pour la transition énergétique, écologique, industrielle, remettre des gens au goût de l'industrie, dans le bâtiment. Bon, tous ces chantiers d'avenir nécessitent que des jeunes hommes et des jeunes femmes s'engagent, et donc les inciter à travailler tôt pour pouvoir partir plus tôt.
Mais il n'y a pas quelque chose de contradictoire avec le fait de continuer à promouvoir la valeur travail comme quelque chose qui fait du lien social et qui est important, et l'idée que en fait c'est un tel, je parle pas de certains métiers, il est évident que les métiers pénibles, et ça sera pris en compte normalement, sont des métiers certains épouvantables qui épuisent les gens, mais cette idée de que le travail c'est quelque chose qui dont on doit se qu'on doit quitter le plus vite possible, c'est ça va avec votre corpus et vos idées.
Non, mais c'est très intéressant le débat que vous soulevez. Des gens, notamment dans le monde ouvrier que je connais bien, peuvent être très fiers de leur travail tout en ayant conscience que ce travail est difficile et que à un moment il faut se reposer et il faut profiter justement des années de travail qu'on a fait pour notre pays et pour sa famille. Ce sont pas deux choses qui sont comment dire contradictoires. À l'inverse, il y a quand même en France, c'est une spécificité de notre pays, par exemple, beaucoup d'accidents du travail, un taux d'accidents du travail, voire de mortalité au travail sur les chantiers qui n'est pas admissible. Donc défendre la valeur travail, c'est aussi défendre les droits sociaux. Ça ne va pas, ce n'est pas contradictoire, bien au contraire. Et les forces syndicales constructives, des syndicats qui défendent notre industrie, sont très à même d'améliorer les conditions de travail.
Constructif, c'est qui par exemple ?
Bon, la CFTC, Force ouvrière, la CFDT quand ils font pas de politique nationale, voilà, concrètement sur le terrain, mais la CGT aussi localement, parce que la CGT localement, moi je le vois dans la Somme, les délégués CGT des usines que je peux connaître sont bien différents de Madame Binet. Ils savent ce que c'est que travailler.
Vous manifestez de temps en temps avec les syndicats, avec la CGT. Parce que vous avez l'air très proche des syndicats, quoi.
Ça m'est arrivé dans ma jeunesse. Et mon suppléant, Philippe Thévignot, a dirigé un syndicat salarié Picard pendant 30 ans.
Allez, on termine avec votre image de la semaine, Nathalie. Vous nous parlez du sort de la famille Bibas.
Oui, les deux petits-enfants, Kfir et Ariel Bibas, qui ont gagné, si j'ose dire, le triste nom de plus jeune otage au monde. Il y en a un qui avait 8 mois. 8, il a dû avoir 9 en cours de détention, l'autre 4 ans. Alors, l'image que j'ai choisie, c'est une image que tout le monde a pu voir. Il y a d'autres images qu'on n'a pas pu voir ou qu'on n'a pas voulu montrer, nous, journalistes ou certaines chaînes de télé. C'est quand le Hamas livre les cercueils, quand le Hamas chante, quand les gens sont en train de danser de joie derrière, avec l'arrivée des 4 cercueils, celui aussi de cet homme de 84 ans et de la premier corps qui n'était pas le bon. Juste pour dire que c'était probablement bien de ne pas montrer ces images, parce que c'était quelque chose d'une déchéance absolue, mais c'est peut-être aussi bien, si on est intéressé, d'aller les regarder, parce que ça donne un peu une idée de ce que c'est. Ça donne une idée aussi de l'horreur de la situation. C'est un résumé de beaucoup de choses, et il faut probablement, même si c'est un peu nier ce que je dis, beaucoup de sagesse pour ne pas tomber dans la haine et dans le désespoir face à tant de bassesse et d'absence totale de civilisation. Ces images-là étaient insoutenables, et la Croix-Rouge, qui en a vu beaucoup, bien d'autres, elle-même a protesté en disant que ces mises en scène barbares étaient absolument intolérables.
A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left.
Voilà, c'est Donald Trump qui parle et qui dit à propos du président ukrainien, c'est un dictateur sans élection. Zelensky ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays parce que la guerre va dans la mauvaise direction. Jean-Philippe Tanguy. Le président Macron, je le disais en introduction, s'envole aujourd'hui pour Washington. Il doit rencontrer demain le président américain Donald Trump pour parler du dossier ukrainien. Pour l'instant, ni l'Ukraine ni l'Union européenne ne sont admises à la table des négociations. Il n'y a que la Russie et les États-Unis. Est-ce qu'il fallait s'y rendre à cette réunion avec Donald Trump? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Oui, je pense que c'est normal que le président Macron s'y rende pour faire exister la France et, si possible, nos partenaires européens, s'ils veulent se dégager de cette gaine de soumission à l'atlantisme depuis trop longtemps. On s'en rend bien compte maintenant que la ligne gaulliste, très ancienne, la politique qui avait insufflé le général de Gaulle pour notre pays, à savoir on ne veut pas de soldats sur le sol américain, sur le sol français, on veut une autonomie nucléaire qui soit purement française, on n'est pas dans le commandement intégré de l'OTAN tout en étant dans l'alliance atlantique. Bref, la France est un allié libre et autonome, était la bonne ligne. Et que toute autre ligne que malheureusement suivie la quasi-totalité, pour pas dire la totalité, de nos partenaires européens, qui consiste à s'armer américain, à penser américain, à avoir des soldats américains sur son sol, est une fausse protection, puisque le jour où un État souverain comme les États-Unis peuvent choisir de se désengager, peuvent retourner à une ligne isolationniste, qui est une tradition américaine ancienne, donc malheureusement, ce n'est pas une surprise que les États-Unis un jour changent de politique. Ils l'ont fait à de nombreuses reprises, alors, y compris à des moments, j'ai presque fini ma phrase, et à des moments tragiques du continent européen. Je vous rappelle que après la Première Guerre mondiale, les États-Unis se sont totalement désengagés des accords et du traité de Versailles et de l'ordre international qu'ils avaient eux-mêmes dicté au continent européen. Alors, donc on n'est pas surpris, c'est tout ce que je voulais dire.
François, vous faites une grande critique de l'atlantisme, mais en même temps on voit quand même une fascination, au moins d'une partie des troupes du RN, pour Donald Trump. Alors est-ce que vous pouvez clarifier la position du RN par rapport à Donald Trump ?
Sincèrement, je ne vois pas de fascination chez
Alors, je précise tout de même la fascination, par exemple, puisque Jordan Bardella était il y a quelques jours aux États-Unis pour participer à cette grande réunion des conservateurs américains où Jed Evans était, Steve Bannon, on aura l'occasion d'en reparler. Hier, il y avait Donald Trump qui était. Jordan Bardella a eu l'occasion de dire que tout le bien qu'il pensait du discours de Jed Evans, qui a quand même surpris tout le monde vendredi dernier. Donc, je suis d'accord avec Françoise Fressoz, ma collègue.
On comprend pas.
Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'observation et il y a une validation des méthodes trumpiennes.
Sincèrement, quand Donald Trump a été élu, le Rassemblement National, et Jordan Bardella en particulier, a tout de suite mis la distance traditionnelle, historique, que notre mouvement a mis envers tous les pays et tous les gouvernements étrangers. À savoir
Marine
que
Le
Trump
Pen l'a peut-être dit plus que...
Plus Trump que défendait les intérêts américains. Mais par exemple, Jordan Bardella, à nombreuses reprises, a donné cet exemple simple et qui malheureusement arrivera sans doute pour nos agriculteurs, que Trump, s'il défend son programme et les intérêts américains, ce sera contre les intérêts commerciaux français. Ce sera sans doute contre Airbus, peut-être. Ce sera peut-être contre nos agriculteurs, contre nos producteurs de vin. Il l'a déjà fait dans le passé.
Jordan donc, Bardella, pardonnez-moi, je vous coupe. Jordan Bardella a préféré... Vendredi, il y avait une réunion très importante sur l'avenir de l'Europe. Le fameux format Saint-Denis, il était l'invité puisqu'il était le... Il était l'un des invités, oui. L'un des participants demandés, puisqu'il était chef de parti et que ça se passait dans le fameux format Saint-Denis. Il a préféré rester à Washington. Si vraiment il avait l'Union européenne chevillée au corps et si Trump représentait pas une certaine fascination pour lui, est-ce qu'il y aurait été ?
Non, s'il avait l'Union européenne chevillée au corps, je serais inquiet. La France chevillée au corps, oui. La coopération européenne, oui. Mais c'est un engagement ancien. Le CIPAC, cette convention, date de l'ère. C'était avant Reagan. Enfin, elle a émergé du temps de Reagan. Le fait d'aller discuter avec le parti et les forces de ce parti qui sont au pouvoir aux États-Unis, c'est normal. Si les démocrates nous avaient invités, je suis sûr pour en avoir déjà parlé avec Marine et Jordan Bardella, qu'on aurait très bien pu aller parler avec les démocrates. C'est normal de parler avec les hommes et les femmes politiques ou les forces politiques qui dirigent la première puissance mondiale et notre premier allié de facto. C'est un engagement ancien. C'est Louis Alliot, premier vice-président du RN, figure historique du RN, maire de Perpignan, qui est allé nous représenter à cette réunion. C'est quand même pas un problème que ce soit Louis Alliot qui aille. Une importance politique.
Non mais enfin, on attend le chef du parti, Jordan Bardella. Oui. Il est pas là. On attend Marine Le Pen.
Mais il pouvait pas être là physiquement. Mais car ça arrive. Je veux dire, on a été prévenu de cette
Marine
réunion.
Marine Le Pen, elle était la veille. On la voit pas en ce moment, alors qu'il se passe des choses très importantes.
Marine Le Pen avait un engagement privé. J'imagine que ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'avoir une contradiction privée avec un événement dont vous êtes prévenu 12 heures avant. Louis Alliot, excusez-moi.
Et Jordan Bardella pouvait pas choisir. C'était forcément les États-Unis.
Mais il était déjà dans l'avion quand il était au courant, quand on a été mis au courant de cette réunion proche. Donc Louis Alliot y allait. J'ai du mal à comprendre en quoi le maire de la plus grande ville du Rassemblement National, vice-président du Rassemblement National,
qui se passe quand même des choses très graves dans l'Europe et dans le monde, et que on a l'impression que les personnages ne sont pas au bon endroit au bon moment. Donc on s'étonne un peu.
Mais la politique, c'est pas. Non mais que je vous posais la question. Je vous réponds, mais excusez-moi, je vous trouve, c'est un peu un manque de respect quand même pour Louis Alliot. Louis Alliot est tout à fait à même de représenter le Rassemblement National et de parler pour Marine Le Pen qui connaît depuis 30 ans et Jordan Bardella qui connaît depuis 10. Je veux dire, on n'a pas envoyé une figure secondaire du Rassemblement National, Alliot. Et excusez-moi, c'était Marine Tondelier pour les Verts. Qu'est-ce qui a plus de poids politique en France? Est-ce que c'est Marine Tondelier?
Elle est patronne du parti.
Non mais écoutez, on est sous la 5e République. C'est pas le régime des partis. Donc il y a le parti.
Le président qui à l'Élysée invite dans son format Saint-Denis tous les patrons de partis.
On n'a pas été prévenu.
Vous avez un parti au fonctionnement pyramidal qui fait que la tête n'est pas exactement la même chose que les échelons intermédiaires.
Mais je ne vous dirai pas. Louis Alliot est considéré comme la tête.
D'accord, très bien. Il y a une image quand même dans la population française qui est « quand on veut, on peut » et qui caractérise un petit peu ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire, et que certains hommes politiques utilisent en disant « bah vous voyez, lui, il l'a dit, il l'a fait, aussi bien dans l'immigration, aussi bien sur les droits de douane. » Donc, comment est-ce que vous utilisez cette formule-là? Est-ce que vous considérez que c'est purement de la démagogie de dire ça, laissant entendre qu'on peut faire la même chose en France? J'essaie de clarifier votre position en fait vis-à-vis de Trump. Mais je ne réussis pas à comprendre.
Là, vous avez raison. Non, mais là, vous soulignez un point très important. C'est que une des raisons de la victoire de Donald Trump ou d'autres, par exemple Javier Milei en Argentine, toutes choses égales par ailleurs, c'est l'exaspération d'une partie des électeurs des démocraties occidentales sur tout est toujours trop compliqué et des excuses administratives, juridiques qui sont parfois de fausses excuses pour ne rien faire. Le fait qu'une certaine partie de la classe politique, et en particulier en France, incarnée par le macronisme, ait abandonné certain nombre de prérogatives régaliennes ou politiques pour toujours se réfugier. On l'a vu avec le rapport de la Cour des comptes. On savait déjà, c'était le même rapport que le corps il y a 3 ans. Toujours se protéger derrière des agences, derrière des juges, derrière des instances internationales, pour ne jamais prendre de décision, pour toujours noyer le poisson. Et bien à la fin...
Non, c'est peut-être aussi d'essayer de les prendre à plusieurs dans le cadre européen. Je ne sais pas si vous êtes souverainiste français.
Moi, je suis totalement souverainiste français.
L'Europe, parce qu'on ne peut pas exister face à la Russie, la Chine et les États-Unis tout seul.
La Corée du Sud, elle existe face à la Russie.
La Corée du Nord aussi.
Non, mais on parle pas de la Corée du Nord, d'accord, mais
le fait qu'on soit petit, le fait qu'on soit petit entre guillemets, mais moi, je suis dans le camp de la France. Et la France est dans le camp européen, elle est dans le camp occidental, elle est dans le camp des démocraties. J'étais président...
Et donc les États-Unis font encore partie du camp occidental bien sûr, et des démocraties
partie,
ou pas
ils font encore pas. Donald Trump a été élu, il a été bien élu, n'en déplaise à ses adversaires. Je ne suis pas américain, je ne suis pas engagé aux États-Unis, je suis quand même assez, à ma petite échelle, connu pour être particulièrement anti-atlantiste et dans la tradition gaullienne, vieille école parfois quand on me caricature. J'étais président d'une commission d'enquête sur les ingérences étrangères, j'ai remis un avant-propos de 80 pages. C'est le record d'un avant-propos, tellement il y avait de choses à dire sur les ingérences.
Mais vous êtes un peu isolé là-dessus, c'est le RN est comme ça.
M'a confié, Marine Le Pen m'a confié la présidence de la commission.
Tout le monde sait que vous êtes un peu spécifique.
Je viens de Debout la France. Je suis un rallié à Marine Le Pen. J'avais un petit parcours très modeste, politique avant. Je n'étais pas élu avant. Ce que je veux dire par
La question, pardonnez-moi.
Si on m'a confié la commission sur les ingérences, c'est bien qu'on me faisait confiance et que Marine Le Pen et Jordan Bardella considéraient que la ligne que je défendais était la leur.
Mais la question posée n'était pas celle-là. La question, c'est est-ce que les États-Unis font encore partie des démocraties quand Donald Trump, par exemple, traite Zelensky, comme on l'a entendu dans l'extrait sonore qu'on vient d'entendre, de dictateur sans élection. Vous êtes d'accord ou pas avec ces propos?
Non mais bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ces propos et je pense que c'est affaiblir l'Ukraine pour rien. Mais les États-Unis restent une démocratie. Donald Trump est là pour 4 ans. Là, je renvoie au général de Gaulle qui disait que derrière l'URSS, il y avait le continuum russe, que derrière le régime maoïste, il y avait le continuum chinois. Les nations et les identités des peuples dépassent les régimes qui peuvent les incarner momentanément. Donc Donald Trump est un personnage qui utilise des méthodes qui, évidemment, ne sont pas du tout dans la tradition gaullienne. Où est-ce qu'il veut en venir? J'entendais Mme Frézos qui disait qu'est-ce qu'il veut détacher... Non, pardon, excusez-moi, c'était une autre émission sur France Culture ce matin. Excusez-moi, je l'ai confondu avec Christine
Ockrent. Vous êtes trop sur les médias, vous êtes trop sur les plateaux télé.
C'était le détachement de la Chine. Moi, si vous voulez, mon petit avis, mais ça n'engage que moi, j'ai l'impression que Donald Trump cherche à détacher absolument la Chine de la Russie. Et que l'Ukraine va être la victime collatérale de cette stratégie. Et le problème là-dedans, c'est qu'il y a des victimes. Il y a un peuple ukrainien qui a été exposé à une guerre extrêmement violente, extrêmement cruelle, et qui est en train d'être lâché par des gens, des régimes, qui lui avaient dit d'y aller. Voilà. Et donc là, on est dans un problème moral extrêmement lourd pour les puissances occidentales.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
À savoir exposer un peuple... et le lâcher. C'est exactement, et j'en finirai
si
là,
on en revient avec la Crimée pour les
Marine Le Pen avait dit, si on s'engage, et si l'Occident s'engage et engage l'Ukraine à aller vers cette confrontation et à revendiquer le statut otanien et le statut de l'Union Européenne, ils prennent le risque de la guerre avec la Russie, et on ne peut pas faire la guerre avec la Russie. Voilà, on savait depuis le début que l'OTAN ne ferait pas la guerre pour la Russie, et donc on a volontairement, les puissances occidentales, ont mis le peuple ukrainien dans une situation tragique.
Alors, attendez, Françoise.
Si Zelensky demande à l'Europe d'envoyer davantage de troupes ou de l'aider, y compris contre les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait, nous ?
Contre la Russie ?
Non, même si les États-Unis disent on arrête et que Zelensky dit aidez-nous, qu'est-ce qu'on dit ?
Il n'y a aucune majorité démocratique en France pour envoyer des troupes françaises en guerre ou en conflit avec la Russie.
Qu'est-ce qu'on fait ? On assume ? De s'en laver les mains.
Non, ça, ce n'est pas de laver les mains. Il faut que les pays européens reprennent le contrôle sur la diplomatie de leur propre continent. Ça fait 3 ans que Marine Le Pen le dit. Nous avons dit, première étape, ils ont délégué.
Ça veut dire on se couche devant la Russie,
mais ça veut dire qu'on fait rien. La diplomatie, c'est parler avec ses adversaires, voire avec ses ennemis. Ils ont refusé
de
parler.
C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron au début, ça a donné quoi?
Nous l'avions soutenu, mais ben, il ne fallait pas lâcher. On avait le soutenu, M. Macron.
Il
ne
fallait pas lâcher comme. Pour négocier, il faut être deux au minimum.
Mais il faut toujours être deux, effectivement. Mais au début, effectivement, une négociation, c'est difficile.
Poutine n'avait pas envie de discuter.
Mais je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête du régime poutinien. Mais rompre les dialogues aboutit à quoi? On l'avait dit, je crois que j'avais dit même sur votre plateau. Ça aboutit à la délégation de la diplomatie, à la Turquie dans un premier temps, à la Chine dans un deuxième temps, aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Donc c'est ça, malheureusement, la tragédie que vit le continent européen, c'est se reposer toujours sur des forces qui sont étrangères aux intérêts européens et après s'en étonner. Nous, en tant que souverainistes, on a dit la France ne doit pas lâcher le contact ni avec l'Ukraine, évidemment.
Vous faites quoi?
Mais il faut reprendre d'urgence un dialogue diplomatique.
J'ai commencé la réponse par
vous dire qu'il avait raison de reprendre les liens. Il faut reprendre des initiatives. Il faut que la France pense par elle-même. La France a une puissance militaire. La France a des intérêts économiques.
Donc ça veut dire on s'autonomise, une armée,
absolument.
On sort de l'OTAN.
Non mais c'est pas sortir de l'OTAN, c'est pas le moment. Marine Le Pen l'a dit de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Il faudra le faire quand la paix sera revenue sur notre continent. Mais excusez-moi, inversement, depuis 3 ans le déclenchement de la guerre, depuis 10 ans les accords de Minsk. Où est l'industrie de guerre européenne? Où sont les usines en France, en Allemagne, en Italie du Nord, en Pologne, en Suède, en Autriche, dans tous ces pays qui ont une tradition industrielle? Elles sont où les usines? Là, j'essaie désespérément avec le groupe Rassemblement National de me battre pour sauver une des dernières usines de munitions en France qui est plus ou moins en liquidation judiciaire dans la différence générale. On a plus ou moins ouvert une pauvre usine de poudre, enfin non, faut pas minimiser, une seule usine de poudre en France depuis 3 ans. C'est ça l'industrie de guerre européenne? Donc il y a un moment, il faut, c'est très bien de faire des grands discours, que Monsieur Barrot soit très martial, mais tout ça ce sont des mots. D'ailleurs, ils n'ont rien fait tout en accusant le Rassemblement National de tout et n'importe quoi. Nous, on a toujours été favorables à relancer une industrie militaire autonome.
Autre question
autonome.
Précise. Si, dans le cadre d'un règlement de paix, où l'Europe pourrait être associée, si on devait envoyer des troupes, non pas des troupes d'intervention, mais des troupes de fonds protection, de garantie des frontières et de la paix, est-ce que vous topez? Est-ce que vous dites oui, c'est une bonne solution ou pas?
Là, nous, on s'est toujours inscrit dans le cadre de l'ONU. S'il y a un rétablissement du conflit dans le cadre de l'ONU, la France participe à un certain nombre de forces de la paix. Mais tout ça est très conditionnel et tout ça est très loin. Ce qui est déjà l'urgence, si vous voulez, c'est pas tout de suite de penser à envoyer des soldats, c'est déjà reprendre les initiatives dont j'ai parlé. Et c'est parallèlement, prendre un certain nombre d'initiatives en Europe, il faut confronter aussi nos partenaires européens. Est-ce que oui ou non nos partenaires européens sont décidés à acheter des armes européenne, enfin dans les pays européens.
Bah, les choses sont en train de changer là.
Oui, on va voir. Moi, je pense que, on va voir. Je le souhaite et je suis pas pour la politique du pire. Moi, je pense que Donald Trump essaie surtout de faire pression sur les partenaires européens pour vendre des armes, beaucoup d'armes américaines dans sa stratégie d'autonomie commerciale. Voilà, il y a les apparences, il y a ce qu'il y a derrière. Moi, aujourd'hui, est-ce que la Pologne, l'Allemagne, une fois de plus, l'Espagne, l'Italie vont choisir
L'Allemagne est en train de se ranger derrière
les États-Unis.
La bombe
américaine.
Française.
Non, mais
ça vient d'être annoncé.
Mais écoutez, on verra, mais je ne crois pas. Voilà. Mais si je me trompe, et si les pays européens décident de reprendre leur destin commun dans leur autonomie, dans leur liberté, ensemble, je m'en féliciterai. Moi, je ne suis pas pour la politique du pire et je ne suis pas pour annoncer des catastrophes. Par contre, quand des catastrophes ont été annoncées par Marine Le Pen sur la base d'une analyse raisonnable et factuelle des faits et pas avec de la morale diplomatique, elle avait raison.
Dernière question pour qu'on comprenne, est-ce qu'il est envisageable de commencer à obtenir, à négocier la paix, un cessez-le-feu, la paix, en laissant aux Russes la Crimée, qu'ils ont depuis plus de 10 ans, et les territoires conquis? Ou c'est quelque chose, c'est une ligne qu'on ne peut absolument pas franchir? Ou est-ce qu'il faut leur dire, c'est comme ça?
Marine Le Pen avait proposé pendant la commission d'enquête sur les ingérences sous serment un référendum sous l'égide de l'ONU. Pour voir si oui ou non les habitants de Crimée choisissaient le destin russe ou le destin ukrainien.
Il y en a eu pendant l'enfant.
Non, sous l'égide de l'ONU. Vous pouvez pas dire que l'ONU est crédible quand vous voulez envoyer des soldats français avec l'ONU et dire qu'elle n'est pas crédible si elle surveille un scrutin.
C'est le droit à l'autodétermination.
C'est quand même un fondamental du droit des peuples. Mais c'est la seule solution. Je ne vois pas d'autre solution. La Crimée ne va pas être reconquise de manière militaire. Donc on peut faire des plans sur la comète. Moi, si vous voulez, ce qui me choque depuis 3 ans, parce que c'est un sujet de la Crimée, on en parle régulièrement, ça n'existe pas en fait en termes de force militaire. Okay. On peut le déplorer, on peut le regretter. Donc on met des lignes rouges qui en fait n'existent que dans un certain nombre de salons parisiens ou de salons européens.
Non, c'est l'histoire du droit du plus fort.
Mais malheureusement, le droit du plus fort
pour envahir des pays.
Madame, je suis d'accord avec vous, mais le droit du plus fort dans l'histoire, il a existé. On peut le déplorer et le droit international a été là pour le contrer, mais on l'a laissé s'installer. Les Russes ne sont pas malheureusement les seuls à avoir utilisé le droit du plus fort. Je regrette que les États-Unis, qui étaient garants du droit international après la chute de l'URSS, aient à plusieurs reprises envahi des pays souverains sur la base de mensonges. À partir du moment où les États-Unis ont envahi et détruit l'Irak, ont envahi et détruit la Libye, sur la base de mensonges ou d'interventions qui n'étaient pas légales, eh bien évidemment, les dictatures se sont mises dans cette triste lignée. Si les démocraties n'ont pas été capables de défendre leurs propres droits, les dictatures en ont profité pour nous imiter. Je le regrette, okay. Je l'ai toujours combattu à ma petite échelle, Marine Le Pen l'a toujours combattu, nous l'avions annoncé. Si le droit est brisé par la démocratie, les dictatures ne vont pas le respecter.
Allez, on clôt ce dossier avant de parler du Conseil constitutionnel. J'aimerais revenir, moi, sur Jordan Bardella à Washington, parce que vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'il a bien fait d'aller là-bas, alors qu'au final, ça s'est soldé par un salut nazi de Steve Bannon, l'ancienne éminence grise du président Trump, pardonnez-moi. Donc il a bien fait d'y aller ou pas ?
Il a bien fait d'y aller, mais a surtout bien fait de partir. Et je suis très fier que Jordan Bardella ait eu le courage de quitter immédiatement dès qu'il a été informé.
Et les Trumpistes, ils ont un problème avec le salut nazi ou pas ?
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de réaction.
Donc c'est encore une démocratie, les États-Unis ?
Autre que Jordan Bardella, et malheureusement, dans l'histoire américaine, parce que bon, ça m'intéresse, si vous voulez qu'on en parle, les mouvements suprémacistes, moi je ne vais pas faire de l'exégèse, ça ne m'intéresse pas de savoir quel est le sens final de ce geste, mais l'histoire du suprémacisme blanc aux États-Unis, il a une histoire plus que tragique et pas si ancienne. Et il faut aussi que la France comprenne les États-Unis dans son histoire réelle. Et je vous rappelle qu'il y avait encore des sénateurs au Congrès des États-Unis qui avaient soutenu le régime ségrégationniste des États du Sud jusqu'aux années 2000. Donc c'est une histoire qui n'est pas si ancienne. Donc effectivement, ce salut, moi, quand je l'ai vu, je n'ai eu aucun doute sur sa signification. Est-ce qu'il renvoie à l'histoire de l'Europe ? Je pense surtout qu'il renvoie à l'histoire
américaine
des États-Unis. Et nous n'avons aucune maille à partir avec le régime ségrégationniste, parce que rappelons-nous que les grands héros de l'égalité des droits civiques, prenez la France des années 60-70 comme un modèle de droits humains.
Françoise, vous voulez ajouter quelque chose sur ça toujours?
Je voulais une question sur le réarmement, où Emmanuel Macron dit on a changé d'époque, où il va falloir se réarmer, où le budget de la défense va devoir augmenter en pourcentage du PIB. Alors est-ce que c'est 3,5%? Est-ce que c'est 5%? Est-ce que vous approuvez cette orientation-là ou pas?
Il faut voir le détail, mais le fait que l'Europe se dégage des moyens financiers pour investir dans la défense, oui, ça me paraît de bonne aloi. Voilà.
Jusqu'à 5%?
Oui, je n'ai pas la doctrine des chiffres.
80 milliards. Vous avez vu le niveau de l'endettement en France. Est-ce que vous êtes prêt
Pardon.
Pour faire davantage de dépenses militaires, c'est-à-dire davantage de protection, au fond, de revoir un peu la façon dont vous dépensez l'argent public.
Ça va être dur, mais on n'a pas le choix.
Je pense que nous avons fait avec Jordan Bardella une campagne législative. Moi, j'avais annoncé qu'il y avait 100 milliards à trouver. Et Jordan Bardella a totalement fait une campagne sur cet effort que la France doit faire.
Pour la défense,
parce que par exemple il y a la recherche, si vous n'avez pas une recherche solide, votre défense armée vaut rien, et si vous n'avez pas une industrie du maire général solide, votre défense vaut rien.
Mais
la défense n'est pas juste acheter des armes aux États-Unis.
Vous leur dites on va serrer la ceinture parce qu'il y a un effort de guerre, on va peut-être arrêter de faire des allègements d'impôts ou parce qu'il y a un effort de guerre. Comment on s'adapte à cette nouvelle réalité?
L'effort de guerre, il est si on est en guerre. Entre l'absence totale, et on ne l'est pas et on ne souhaite pas l'être, entre l'absence totale de stratégie de réarmement pour le continent européen tel que c'est depuis au moins les années 90, l'économie de guerre dont M. Macron et d'autres parlent sans rien faire, il y a un monde. Et ce monde, c'est juste réorganiser une industrie de défense, réorganiser une industrie de base qui est capable, en métallurgie, en chimie, par l'innovation, de produire une industrie de défense. Et c'est surtout acheter français et européen en général. Parce que si c'est pour faire 5% de déficit, pour acheter des armes américaines, ou coréennes, ou je ne sais quoi, on n'aura pas avancé. On n'aura pas avancé. Donc la question, c'est pas l'argent, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière. Et je crains que les propositions du Rassemblement national.
Plus, c'est que vous êtes contre l'Europe de la défense. Mais on n'est pas toujours été. Mais non, au nom de la souveraineté nationale.
Mais c'est parce que c'est pas la même conception. Il peut y avoir une coopération de défense sans que les armées soient fusionnées, Madame Fraisseau. C'est tout. C'est ça. On est contre le fait de croire que la souveraineté européenne peut remplacer la souveraineté des États, parce qu'au moment où vous décidez de la vie ou de la mort de vos compatriotes, il n'y a que le destin national qui entre en jeu. Est-ce que ça empêche de coopérer? Est-ce que ça empêche de faire une industrie commune? Non. Allez, mais entre la fusion et l'isolement, il y a un monde quand même.
Il est 1h moins le quart et on est toujours avec Jean-Philippe Tanguy dans Questions politiques jusqu'à 13h. Je voudrais qu'on revienne aussi sur un temps fort de l'actualité politique de cette semaine, la validation par les commissions des lois à l'Assemblée et au Sénat de Richard Ferrand, ce proche d'Emmanuel Macron, ça donc le prochain président du Conseil constitutionnel. Il est passé à une voix près avec un Rassemblement national qui s'est abstenu donc sur le sujet. Je vous propose deux réactions à ce vote. D'abord l'insoumis Antoine Léaumont qui sera suivi du républicain Olivier Marleix.
Moi je suis assez surpris, assez choqué aussi, parce que on s'attendait tous à ce que M. Ferrand soit battu et que ce soit une nouvelle défaite pour Emmanuel Macron dans cette commission des lois.
Je trouve encore le plus choquant, au-delà de ce faible score obtenu par M. Ferrand, de cette très faible adhésion qui fragilise l'institution du Conseil constitutionnel qui n'en a certainement pas besoin, c'est ce deal secret entre Marine Le Pen et le président Macron.
Voilà, personne n'a compris donc pourquoi le Rassemblement national s'est abstenu. Jean-Philippe Tanguy, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez soutenu un macroniste, contesté à droite et à gauche, on vient de l'entendre. Est-ce que, comme le dit Olivier Marleix, il y a un deal, un accord secret?
Non, mais c'est un peu pathétique que la force de gouvernement que fut les Républicains en soit arrivée là, mais on pourra y revenir si vous voulez. Il n'y a pas de deal secret. Il y a éviter la politique du pire. C'était très difficile
mais
pour nous.
Mais c'était quoi le pire?
Le pire, c'est un espèce de juriste qui a l'apparence de la neutralité technocratique et qui est en fait est un idéologue. Donc, nous.
Oula. Oui, donc, oui. Vous pensez que.
Il y avait ça dans les tuyaux?
Parce oui, bien sûr, on entend Excel, par exemple.
Ah, d'accord, c'était ça la cible. Donc, vous pensez qu'un juriste est plus dangereux qu'un politique à la tête du Conseil constitutionnel?
Un juriste qui est en fait un politique, oui.
Pourquoi un politique, c'est mieux parce qu'on peut manœuvrer?
Je préfère un politique habillé en juriste comme monsieur. Enfin, je ne rejette moins un politique habillé en juriste comme monsieur Ferrand qu'un juriste qui en fait est un politique, comme monsieur Combrexel. C'est-à-dire des gens qui manipulent l'état de droit pour faire de la politique, tout en ayant l'air très sérieux. Ce qui est très dangereux, ce qu'on appelle le gouvernement des juges, et ce qui est une des causes du backlash, du retour de boomerang qu'on peut avoir dans certaines démocraties, comme les États-Unis, qui ne supportent plus cette impuissance organisée derrière des couloirs au nom du droit. Voilà, par exemple, le principe de fraternité, qui n'existe nulle part dans la Constitution française, dans aucune, qui n'a pas été jamais prononcé par le général de Gaulle ou par Debré, fondateur de la Ve République, qui permet de ne pas lutter contre l'accueil des clandestins, c'est surréaliste.
Mais ça veut dire qu'avec un politique, on peut s'arranger.
Voilà, c'est ça, la préambule de la Constitution et les principes fondamentaux du droit qu'il y a la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'est étoffée en s'émancipant parfois ou en comprenant un peu plus que les articles de la Constitution.
Oui, c'est madame, pas nouveau. Mais ce n'est pas la tradition française, ce n'est
d'accord.
pas ce qu'a dit
Gérard. Avec Richard Ferrand, vous pensez être tranquille, non, ou du moins savoir ce à quoi vous pouvez attendre.
C'était difficile pour nous, mais nous, on ne veut pas la politique du pire. Et on pense que le pire, c'était... Quand M. Ferrand aurait été rejeté, moi je ne sais pas ce qu'a calculé M. Macron, c'est d'avoir une personnalité qui manipule la Constitution pour faire le gouvernement des juges. Nous ne voulons pas le gouvernement des juges, ce n'est pas la tradition française, et je peux débattre avec n'importe qui, il n'y a pas de problème, pour démontrer que ce n'est pas la tradition française. Nous ne sommes pas dans le monde anglo-saxon, et en France, dans la tradition de Montesquieu, le juge est la bouche de la loi, il ne fait pas la loi.
Est-ce qu'il faut réformer le mode de nomination au Conseil constitutionnel ou pas? Il y en a qui en parlent.
Peut-être, mais le vrai point, c'est surtout qu'il faut que le Conseil constitutionnel revienne à sa place historique, celle que la Constitution lui a donnée, et pas celle qu'elle s'est attribuée avec la complicité des instances européennes.
Mais les électeurs, ils comprennent, au fond, c'est quand même une fleur faite à Macron. Vous avez quand même sauvé la nomination d'une personnalité qui était soutenue par le président de la République. Vos électeurs, ils comprennent ça ou pas?
Au bout de mot, j'étais dans la Somme, je n'ai pas eu de difficultés particulières.
On vous en a parlé?
Non. Il faut expliquer aux électeurs, évidemment, comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui. La communication du Rassemblement national. Mais oui, mais nous n'avons pas gagné la présidentielle avec Marine Le Pen et législative avec Jordan Bardella. Je le regrette. Si les Républicains et si M. Léaumont pour les Insoumis n'avaient pas soutenu Macron par leur vote, c'est Marine Le Pen qui aurait choisi le président du Conseil constitutionnel. Elle aurait choisi sans doute un juriste qui était dans la tradition de l'état de droit français.
Oui, mais
et
la
pas,
Marine Le Pen, elle est en procès et elle va avoir il y a un jugement important qui doit tomber le 31 mars.
Non, mais non.
Avant ça, ben,
mais non.
Pourquoi
mais,
non? Alors attendez, on va quand même expliquer aux auditeurs qui nous écoutent. Il y a avant ça une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, qui va donc être soumise au Conseil constitutionnel sur la peine d'inéligibilité, et notamment son exécution immédiate. Il va être libre, Richard Ferrand, de...
Il nous doit rien, hein. Il est là pour 9 ans, il fait ce qu'il veut. Hein. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, il y a un devoir d'ingratitude. Donc c'est presque l'inverse. Non mais excusez-moi, donc c'est presque l'inverse. Oui, ça vient de Bonato, vous avez raison. C'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'on a même pris un risque par rapport au destin juridique.
C'est qu'il veuille montrer tellement son indépendance.
Et oui, c'est qu'il montre que, bah, non, je vois rien au RN, donc il fait l'inverse. Donc, cette accusation, donc, qu'a repris Monsieur Marleix, qui visiblement, vit très mal le fait de soutenir directement Monsieur Macron, puisqu'il participe au gouvernement de Monsieur Macron, avoir dit pendant des années qu'il ne le ferait pas, on est dans le grotesque. Et bon, vous avez raison de poser la question, parce que c'est une question que les gens se posent, donc il faut y répondre, mais c'est totalement l'inverse. On a pris, au contraire, notre courage à deux mains, parce que le risque est que M. Ferrand dise, voyez, je vois rien au RN, je prends une décision injuste. Mais j'espère que M. Ferrand prendra juste une décision en droit. Bon, sur cette QPC, quand même, la quasi-totalité des juristes qui la commentent dans les journaux expliquent que non, l'exécution provisoire n'a pas été apprise.
On verra. Oui, là, juste une dernière question. Scrutin législatif ce week-end, enfin ce dimanche en Allemagne. L'AFD, le parti d'extrême droite allemand peut faire un score. Vous soutenez, vous souhaitez la victoire de l'AFD ou pas?
Non, nous avons rompu avec l'AFD avant les européennes, alors qu'ils étaient déjà promis à des gros scores. De la même manière que Jordan a montré son courage en quittant la CIPAC aux États-Unis, nous ne faisons pas de compromis avec nos principes. On a un programme aux Français, il n'y a pas de programme caché. Donc quand des forces politiques assument des gestes ou des valeurs ou des programmes qui ne sont pas celui du Rassemblement National et pas ce qu'on veut pour la France, nous rompons sans équivoque. Et je trouve, permettez-moi, que ça nous est jamais quand même reconnu. Parce que, quand même, c'est très courageux de notre part d'affirmer ces principes, et parfois, ça nous coûte.
Merci Jean-Philippe Tanguy. Vous restez avec nous. Il est temps d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécard.
Merci Adrien Broche. Ne sortez pas un grand calepin comme ça, parce que vous n'allez pas avoir le temps de beaucoup discuter. On a beaucoup interviewé Jean-Philippe Tanguy. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur le plateau de questions politiques.
Merci à vous.
Vous êtes politiste donc, vous êtes responsable également des études politiques pour l'Institut Via Voice, l'Institut de sondage, et vous venez de sortir un livre très érudit, me semble-t-il, et très éclairant en tout cas, sur la gauche, portrait moderne de la gauche française. C'est publié aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. C'est un livre dans lequel vous disséquez, je dirais, les débats d'idées qui agitent en ce moment la gauche française depuis 2010, hein, jusqu'à aujourd'hui. Alors on a bien sûr tous en tête les récentes motions de censure à l'Assemblée déposées par les Insoumis, qui n'ont pas été votées par les socialistes, qui a profondément agacé Jean-Luc Mélenchon, qui a estimé d'ailleurs dimanche dernier dans la presse que les socialistes n'étaient plus parmi ses alliés. Vous allez essayer, Adrien Broche, de nous rendre tout cela un peu plus clair, un peu plus lisible. Moi d'ailleurs, d'abord, j'ai été très surprise par le titre en fait de votre livre. Quand je lis « La gauche », j'avais l'impression qu'il n'existe plus une gauche, mais des gauches. Donc il existe toujours une gauche française.
Bah justement, j'essaye d'interroger ce signifiant de gauche. On peut effectivement, au gré des lignes du livre, en conclure qu'il y en a effectivement plusieurs, de cultures politiques différentes, de traditions politiques, de sensibilités différentes. Mais j'essaye quand même de prendre au sérieux cette grande famille qui doit partager, je crois, normalement, un élément qui est une forme d'affect égalitaire qui doit réunir les gauches en général. Donc c'est un point de départ assumé que j'essaye d'interroger tout au long du livre.
Mais donc du coup, si on prend Jean-Luc Mélenchon par exemple, François Ruffin, je sais pas moi, Olivier Faure, François Hollande, merci, Emmanuel Valls, on pense au même. Là, il y a un front commun. Enfin, il existe. Il y a une communauté au départ de.
Bah, disons que théoriquement, il
de
doit.
De valeurs, d'idées, de quoi.
Exactement. Théoriquement, il doit exister une communauté de valeurs, d'idées, un certain rapport à la tradition politique socialiste. Après tout, Jean-Luc Mélenchon a été membre du Parti Socialiste. Après tout, Jean-Luc Mélenchon, comme François Hollande, comme Benoît Hamon, ont été à un moment ou un autre proche de quelqu'un comme Michel Rocard. Donc il y a des transferts normalement d'idées, un socle commun qui doit lier ces personnalités.
Un socle commun qui est quoi, par exemple? Parce que quand on voit le nombre d'ouvriers qui votent pour la gauche ou l'absence de milieu populaire dans le choix pour la gauche, ça veut dire que la gauche s'occupe de quoi spécifiquement?
Disons que le socle commun, normalement, moi je travaille du point de vue des idées, ça doit être un certain rapport à l'idée socialiste, quoi. Effectivement, à l'émancipation d'un certain nombre de catégories socio-professionnelles, les ouvriers, les employés en premier, un certain affect égalitaire, il faut aller vers davantage d'égalité. Ça, c'est le socle qui, théoriquement, doit lier toutes les personnalités qui peuvent se raccrocher à la gauche. Certaines plutôt réformistes, d'autres plutôt dans le conflit vis-à-vis du marché, certaines plus accommodantes, etc. Mais bon, ce qui je crois est très éclairant sur les 15 années qu'on vient de traverser, c'est qu'il y a un certain nombre de brèches, on l'a vu dans ce socle commun. J'essaye de montrer où sont ces brèches-là, peut-être là où on les voit pas toujours, là où on a aussi des oppositions qui sont, je crois, une forme parfois de commodité médiatico-politique qui consiste à dire on a deux gauches irréconciliables. J'essaye de challenger
ça,
en bon français.
Ça, vous ne le reprenez pas.
Je ne le reprends pas, mais disons que j'essaye de l'interroger.
C'est
là aussi.
Brèches, exactement, vous l'interrogez.
C'est quoi les brèches?
Alors, il y en a un certain nombre. Je pense qu'on a une première fracture, une première sensibilité de rupture qui apparaît, vous vous rappelez, après cette fameuse note Terra Nova qui sort en 2011. Et la gauche
donc
est globalement
sur les classes populaires,
exactement. La note propose aux candidats socialistes à la présidentielle de l'époque d'abandonner ce qu'on appelle, François Hollande, la coalition ouvrière au profit d'un agglomérat de segments sociologiques de la société française, donc plutôt les minorités ethno-confessionnelles, les femmes, les jeunes diplômés, les urbains, etc.
Et là, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, il nous faut ces classes populaires pour réussir à gagner
l'élection. Exactement.
L'élection,
Moi, j'essaye d'interroger classe populaire, pas en sociologue, pas dans le sociologue que je ne suis pas, mais plutôt comme signifiant politique. Comment les gauches se restructurent à partir de cette question classe populaire? Celles qui disent, parce qu'on parle des classes populaires, mais c'est déjà un débat, certains vont dire c'est la France des bourgs, la France des tours, la France périphérique. Jean-Luc Mélenchon va viser une autre France, ce qu'il appelle la nouvelle France, la France des quartiers populaires, etc. Donc ça, c'est déjà un débat.
Et vous avez deux. Parce que vous parliez de deux brèches au pluriel.
Plusieurs, oui.
Alors, quelles sont les autres? On en a une, là.
Voilà, François disait les brèches.
Oui, les brèches. Il y a une autre brèche qui va être le rapport à la responsabilité. Moi, ce que j'essaye de développer dans le livre, on dit souvent, vous avez une gauche responsable, plutôt gouvernementale, etc., et puis une gauche qui va être plutôt dans la contestation. On voit, par exemple, au moment des émeutes, que cet enjeu de la responsabilité, il ressurgit à nouveau, mais sur un segment un petit peu différent du débat d'idées. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire la responsabilité de cette violence, malgré tout, qui se déchaîne dans les émeutes au mois de juillet 2023. Ça va plutôt être une responsabilité sociale de la République française qui n'a pas accompagné ses enfants, etc. D'autres vont vous dire non, il n'y a pas d'excuse à la violence, donc on dit non à la violence. Vous avez au moment des attentats des débats aussi sur la responsabilité. Est-ce que la responsabilité des frères Kouachi à l'époque, elle est la responsabilité d'un embrigadement djihadiste? Est-ce que c'est la responsabilité d'un État français, de la République, qui là aussi n'aurait pas donné toutes ses chances aux mêmes jeunes citoyens français? Une responsabilité plutôt libérale.
Il venait des classes moyennes.
Mais là, c'est ce que vous appelez la gauche identitaire, en fait.
Alors ça, c'est effectivement une appellation qu'on utilise pas mal, la gauche identitaire, pour, en gros, cibler, qui vient plutôt de ce qu'on appelle les identity politics aux États-Unis, qui a été reproché à Hillary Clinton, et puis peut-être plus récemment aussi à Kamala Harris, qui est justement de perdre les élections, parce que plutôt que de cibler une majorité sociologique ouvrier-employé, il cible un agglomérat de minorités. Je pense que c'est une problématique qu'on peut retrouver en France.
Qui incarne ça? Parce que moi, je vois pas. Qui incarne la gauche identitaire aujourd'hui en France?
Je sais pas si c'est la gauche identitaire. Je pense que la version la plus proche, c'est la tactique électorale qu'essaye de mettre en place Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas si c'est une gauche identitaire. En tout cas, c'est
une gauche part de marché,
qui essaye
part de marché électoral. C'est ça que vous dites dans votre livre.
Exactement. Mais derrière la gauche identitaire, il y a une manière de s'adresser à un segment de la population. Si vous vous adressez à des employés, des ouvriers, et que vous mettez en avant une condition socio-économique, vous adressez précisément à cette condition qu'ils partagent en commun. Si vous vous adressez à une jeunesse française issue de l'immigration en mobilisant des affects plutôt identitaires, c'est-à-dire vous êtes une génération d'enfants qui, dont les parents, les grands-parents ont connu la colonisation, vous portez encore en vous ces germes-là, là on va plutôt parler de gauche identitaire. Donc c'est quelque chose qui est difficile à calquer sur le cas français. Si on devait aujourd'hui plutôt retrouver une traduction politique, c'est plutôt ce qu'essaye de faire autour de la Nouvelle France, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, avec toutes les spécificités
alors,
qu'on a.
Alors Françoise, vous posez une question, vous avez 45 secondes
mais
pour poser la question
la
et
gauche,
répondre à la question.
Non, mais Françoise, c'est sérieux. Les gauches, elles pèsent à peine 30% actuellement. Mmh. Et l'un des gros enjeux, ça a été la perte de l'électorat populaire qui est parti du côté du Rassemblement national. Est-ce que la gauche est durablement marginalisée ou est-ce qu'elle a une chance de retrouver un peu de...
Ouais. Et la gauche, je pense, a sûrement une chance de retrouver une vivacité électorale et politique. Elle est affaiblie, en gros, sur deux piliers qui sont structurants chez elle. L'idée socialiste, parce que sortie de la société industrielle, parce que mutation de la sociologie électorale, parce que son lien avec l'acteur historique, la classe ouvrière, est altéré.
Elle est prête à gouverner,
deuxième,
là, ou pas ?
Deuxième pilier, ouais. L'idée de république qui, là aussi, fracture. Est-ce qu'elle est prête à gouverner ? La gauche a déjà fait des preuves de capacité à gouverner. Maintenant,
vous refusez irréconciliables, est-ce qu'ils peuvent se réconcilier ?
Il y a deux manières de voir soit ils sont réconciliables parce qu'il y a alliance, c'est la position un peu formelle, et là, dans ce cas-là, l'affect unitaire, il est extrêmement puissant à gauche, on l'a vu encore aux législatives anticipées, donc je crois que c'est très difficile d'enterrer la capacité des gauches dites irréconciliables de se réconcilier dans un accord électoral, et moi, ce que j'interroge plutôt, c'est les positions. Est-ce qu'il y a des positions irréconciliables ? Là, je crois qu'on le voit notamment depuis le 7 octobre, il y a des positions incompatibles et donc inconciliables.
D'accélérer votre manière de parler, mais malgré tout, le sablier s'écoule. Merci à tous les deux.
Merci à
Adrien Broche. Je rappelle le titre de votre livre, Adrien Broche, Portrait moderne de la gauche française aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Aussi,
merci.
Jean-Philippe
Tanguy.
Ah, vous aviez lu le livre. Vous pouvez discuter maintenant, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver beaucoup de temps. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.